Enregistre le tour sur quelques cassettes. Il y a un auditeur fictif, disons, qui est un étudiant qui habite l'Angleterre et qui m'a demandé s'il pourrait, et donc il ne peut pas assister au cours, et s'il pourrait avoir, faire des échanges de cassettes. Alors, si quelques possesseurs de cassettes veut bien s'en dessaisir de temps en temps pour lui permettre de les enregistrer, et qu'il veuille bien venir me le dire à l'entracte. Deuxièmement, comme toujours, j'ai reçu quelques observations par lettre, quelques suggestions, quelques rectifications concernant le cours de la dernière fois. Alors, je remercie les personnes qui m'ont écrit. Je ne réponds pas pour le moment parce que je pense que dans la suite du cours, j'aurai l'occasion de revenir sur les problèmes soulevés avec beaucoup de pertinence par ces lettres. Alors, je continue ou je reprends. Vous vous rappelez que nous sommes dans une sorte de prologue qui consiste à nous interroger ou à m'interroger devant vous sur le désir d'écrire. Et dans ce prologue, j'ai abordé, disons, un chapitre où j'essaye de montrer que, alors que pendant longtemps, écrire a été considéré, disons, comme un désir ou une pulsion s'appliquant de droit à un objet, à un certain moment, il y a eu, je crois, une sorte de mutation historique. Et on est passé du désir d'objet au désir comme simple tendance, sans tenir compte de l'objet. Et c'est là que j'en étais, je crois, la dernière fois. Et j'avais donné des citations de Flaubert qui représentent très bien cette sorte d'état du désir d'écrire comme tendance. Alors, bien entendu, donc je continue, lorsque l'objet de l'écrire s'efface ou s'estompe au profit de la tendance, il y a évidemment une indifférence croissante à distinguer les objets de l'écrire, c'est-à-dire une indifférence croissante à distinguer les genres de la littérature. La division des genres n'est pas pour rien que le mot genre en français, en tout cas, s'applique à la fois à des réalités grammaticales et en fait sexuelles, genre masculin, féminin, neutre, et d'autre part à des réalités d'ordre littéraire, genre comique, tragique, etc. Donc c'est la même question, la question des genres, ici sexuelle et là rhétorique. Et effectivement, la rhétorique était au fond principalement un art des genres, s'estompe au cours du XIXe siècle. Ceci a fait l'objet d'un séminaire déjà lointain à l'École pratique des hautes études quand elle était à la Sorbonne. Il y a donc une poussée à l'indifférenciation des écrits, et cette poussée à l'indifférenciation des écrits actuellement, je dirais qu'elle est freinée. Elle ne s'accomplit pas, mais parce qu'elle est freinée pour des raisons, par des catégories éditoriales. Au fond, ce sont les éditeurs et les libraires qui ont besoin de catégories, ne serait-ce que pour classer les livres dans une librairie, et c'est cela qui freine l'indifférenciation des genres littéraires. Alors, le champ privilégié de cette indécision des objets ou de l'objet, c'est celui qui est tracé par l'éclatement du roman, ou du moins par sa déformation, disons déformation au sens topologique, c'est-à-dire l'espace classique du roman se déforme à la façon d'un objet topologique. Et c'est un dossier à constituer que cette déformation du roman, cette déformation moderne du roman, et je vous demande simplement de penser, comme premiers éléments de ce dossier, à ce qui me vient directement à l'esprit, ou plutôt à ce qui m'est venu au moment où j'ai préparé le cours, évidemment. Par exemple, Proust hésitant ce fameux été 1909 auquel j'ai fait un sort, paraît-il abusivement. Mais enfin, on reviendra sur cette question. Vous savez, quand, pendant l'été 1909, Proust, d'une façon que je continue à penser assez énigmatique, est passé brusquement, et sans que nous ayons guère d'explication là-dessus, du Contre Sainte-Beuve, qui était un essai, à La Recherche, certes, qui était plus ou moins commencée depuis un certain temps, mais c'est à partir du mois d'octobre 1909 qu'il s'est lancé en quelque sorte à fond de train dans le roman. Donc il a hésité entre l'essai et le roman, et en hésitant, il a évidemment accouché d'une œuvre complètement atypique, qui est La Recherche, qui est à la fois essai et roman. Et puis, vous savez qu'il admirait beaucoup, Proust admirait beaucoup cette hésitation des genres chez les écrivains qu'il préférait et dont il pensait qu'il voulait, au fond, accomplir plusieurs genres à la fois, comme Nerval et Baudelaire. Donc, on dirait que chez Proust, en tout cas, écrire comme tendance a été longtemps freiné par la loi de l'objet, c'est-à-dire écrire quoi, et il ne savait pas écrire quoi, un roman ou bien un essai, il hésitait, et ceci rappelle les hésitations comiques de Bouvard et Pécuchet quand ils décident d'écrire à un certain moment et qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont écrire. Une tragédie, une biographie, tous les genres sont passés en revue. Deuxième considération pour cette déformation du roman, c'est qu'une transcendance s'esquisse du roman comme figure, je dirais, en palimpseste, c'est-à-dire par en dessous le texte écrit, il y a du roman à partir de sa forme canonique. C'est ce que j'ai appelé la catégorie du romanesque, en distinguant bien donc le roman du romanesque. Et le romanesque croît en fascination au fur et à mesure que le roman, comme canon, perd de l'intérêt. Plus le roman, historiquement, semble perdre de l'intérêt, enfin ça serait à démontrer, mais enfin c'est ma conviction, plus la catégorie du romanesque croît en fascination. Je donnerai comme exemple cette fascination du romanesque qui s'inscrit dans des œuvres qui ne sont pas des romans, par exemple, Monsieur Test de Valéry, Les paradis artificiels en un sens de Baudelaire, Nadja de Breton, Madame Édouarda de Bataille, etc. Et tout cela, donc ce travail, toutes ces déformations, ce roman qui vient simplement en palimpseste derrière l'œuvre ou sous l'œuvre, ça se travaille au profit d'un nouveau mot qui n'est pas un mot générique, qui n'est pas un mot qui renvoie à un genre littéraire, mais qui désigne une œuvre dont le genre est précisément irrépérable, et ce mot très moderne et dont fait grand usage aujourd'hui, c'est le mot texte. Le mot texte veut dire simplement que le genre est irrépérable et que nous sommes dans l'écrire comme tendance et non plus dans l'écrire pourvu d'un objet. Voilà ce que veut dire, à mon sens, le mot texte. Alors, ce qui, historiquement, se rapproche le plus du texte, ou en tout cas d'une certaine façon le préfigure théoriquement, réclamant donc pour le mélange des genres, l'indécision des genres, le bariolage des genres, c'est donc ce qui se rapproche le plus, c'est la théorie romantique allemande, bien entendu, disons pour simplifier avec provocation, il n'est de romantisme qu'allemand, la théorie romantique allemande du roman. Le roman, chez des auteurs comme Novalis et Schlegel, c'est essentiellement un mélange des genres, en l'absence de toute hiérarchie ou de tout découpage. C'est ce qu'on appelle le roman romantique ou le roman absolu. Je vous donne des citations, l'une de Novalis. Art du roman. Deux points. Le roman ne devrait-il pas embrasser toutes les espèces de styles dans une succession diversement liée à l'esprit commun? L'art du roman exclut toute continuité. Le roman doit être un édifice articulé Dans chacune de ces périodes, chaque petit morceau doit être quelque chose de coupé, limité, un tout valant par lui-même. Et ceci, prose proprement romantique, au plus haut point changeante, merveilleuses tournures étranges, sauts brusques, tout à fait dramatiques, même pour de brefs exposés. C'est une très belle définition du fragment comme roman. Enfin, je sais que l'idée d'étudier le fragment est dans l'air et même s'accomplit ici et là dans des numéros de revue ou dans des thèses, n'est-ce pas? Eh bien, ou peut-être même, je crois même savoir, peut-être s'embrouille, mais que dans une histoire de la littérature contemporaine récente, un nouveau volume est prévu et il sera un volume précisément sur la littérature fragmentaire. Donc voilà une merveilleuse définition du fragment comme roman. Et on voit comment déjà ici, l'objet de l'écrire est fractionné au profit, disons, d'une moire d'énergie d'écriture. Écrire comme tendance veut dire que des objets d'écriture paraissent, brillent, mais disparaissent. Et ce qu'il reste au fond, dans l'écrire comme tendance, c'est un champ de force. Ça n'est pas un tableau d'objets, c'est un champ de force. Aussi, il est normal, puisque j'ai avancé le mot de force, il est normal que nous retrouvions le problème de l'écriture fragmentée et bariolée, celle du texte, chez Nietzsche. Nietzsche, en effet, à un certain moment, dans la naissance de la tragédie, diagnostique la pluralité stylistique, la pluralité des styles de Platon. Et il dit, Platon a été contraint par pure nécessité esthétique de créer une forme d'art qui fut intimement liée aux formes d'art qu'il rejetait. Si la tragédie avait absorbé tous les genres nés avant elle, on peut paradoxalement dire autant du dialogue platonicien qui, alors je souligne en parlant si je puis dire, qui, issu du mélange de toutes les formes et de tous les styles existants, oscille entre le récit, le lyrisme et le drame, constitue un moyen terme entre la poésie et la prose et rompt ainsi la rigoureuse règle qui prescrivait autrefois l'unité du style. Par conséquent, de ce point de vue-là, les dialogues de Platon doit être entendu au sens tout à fait moderne que le mot dialogue a chez Bartine, chez l'essayiste, le critique russe soviétique Bartine, n'est-ce pas ? Ça a été assez à la mode il y a 5 ou 10 ans chez les théoriciens de la littérature et qui a été, disons, révélé ici par Todorov et Julia Kristeva. Donc ça doit s'entendre, les dialogues de Platon, au sens de Bartine, c'est-à-dire le dialogisme, le mélange des voix, le mélange des voix. Et Nietzsche, bien entendu, à l'égard du bariolage, a une position assez conditionnelle, c'est-à-dire qu'il sauve le bariolage, le mixte, les mixtes, l'indécision des genres, selon les termes de force et de faiblesse. Les mélanges pré-socratiques, pour lui, sont forts, c'est-à-dire participent de la force, tandis que le mélange platonicien est faible. Le bariolage, c'est donc une notion importante, par une sorte de filiation conceptuelle qui va des premiers romantiques allemands, les théoriciens du roman absolu, jusqu'à nous, en passant par Nietzsche. J'ai oublié de donner le mot grec pour cette catégorie du mélange, du mix, de l'indécision, du bariolage. C'est le mot en grec ancien que je prononce selon la prononciation érasmienne, enfin celle des lycées français. C'est le mot poikilos, P-O-I-K-I-L-O-S, avec l'accent sur le I, poikilos, qui veut dire barioler, tacheté, moucheté, comme une peau de bête. Enfin, tacheté, moucheté. Et c'est ce mot d'ailleurs, poikilos, que vous retrouvez avec transcription, une transposition phonétique, lorsque vous allez en Grèce, dans la Grèce actuelle, et que vous demandez au restaurant des hors d'œuvre, c'est-à-dire des mets variés et bariolés, ça se dit des pikilia, c'est-à-dire des poikilia. C'est le même mot qui, hors d'œuvre, est le concept très sophistiqué de bariolé en littérature. On pourrait dire aussi parler du rhapsodique. Le poikilos, ce serait en un certain sens le rhapsodique. Vous savez que rhapsodique, en grec, rhapteine, veut dire coudre. C'est donc ce qui est cousu. Ce sont des pièces qui sont cousues ensemble, un peu comme un patchwork, mais probablement plus organisé, dans la mesure où une robe, ça n'est pas même seulement un patchwork. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que Proust, à la fin de son œuvre, voulant donner la théorie de la littérature, explique que l'œuvre doit être faite, l'œuvre littéraire doit être faite comme par une couturière. C'est la métaphore de la couturière. Rhapsodique. Alors évidemment, le rhapsodique éloigne l'objet, magnifie la tendance et magnifie l'écrire. Alors, c'est un peu à cette extension ou à cette défection du roman que je pensais en intitulant ce cours, il y a donc maintenant 2 ans, la préparation du roman. Parce que roman, dans mon esprit, doit peu à peu s'entendre comme roman absolu, au sens allemand, roman romantique, roman poikilos, roman de l'écrire tendance. Autrement dit, toute œuvre, tout texte. Voilà. Maintenant, autre chose concernant toujours écrire comme tendance, on va faire un tout petit peu de linguistique. Pas très nouvelle d'ailleurs, mais donc rafraîchir quelques souvenirs. Donc, à un certain moment, déjà recherché, ça serait une recherche historique, probablement avec le romantisme, mais peut-être ici et là plus tôt, peut-être que chez Montaigne, il y a aussi déjà de l'écrire comme tendance, il faudrait étudier tout cela, ça serait la tâche d'un bon historien de la littérature que de le faire. Donc, à un certain moment, écrire n'a plus été seulement une activité, je dirais, normale, c'est-à-dire avec définie par une visée plus un objet, une visée adaptée à l'objet et l'intégrant dans un seul mouvement, mais aussi, ici et là, écrire a été une tendance dont l'objet importait moins que la richesse même du tendre vers, d'une force qui cherche voluptueusement et dramatiquement son point d'application. Voilà donc ce que serait l'écrire. Une force qui cherche, quelquefois douloureusement, quelquefois voluptueusement, dramatiquement, son point d'application. Alors, une trace possible de ce surgissement, de ce nouvel écrire, et donc de cette petite révolution dans l'intentionnalité du verbe écrire, c'est que on emploie à un certain moment. C'est une phrase grammaticale, parce qu'à un certain moment, on passe de écrire plus complément d'objet, écrire une tragédie, écrire une comédie, écrire un roman, écrire un poème, écrire un sermon. On passe donc de écrire plus complément d'objet, écrire verbe transitif, à écrire sans complément d'objet, c'est-à-dire au sens absolu. Combien de fois maintenant dans la vie n'entendons-nous pas des phrases de ce genre, tout au moins je les entends, et vous nous écrivez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous écrivez? Non, encore, qu'est-ce que vous écrivez? Il y a un complément d'objet. Mais disons, dans la phrase, qu'est-ce que vous faites? J'écris. C'est écrire au sens absolu. Ou, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'écris. Tellement difficile de répondre. On donne une réponse qui a l'air très facile, mais qu'on n'ose jamais faire. Dans la vie courante, on n'ose jamais dire à quelqu'un « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'écris. » Il faudrait beaucoup de courage pour le dire, on triche. Alors, on pourrait dire que écrire verbe, on pourrait dire qu'il s'agit de écrire verbe intransitif, parce que la construction désormais régulière du verbe est sans complément. Et ceci dans l'usage, déjà un petit peu au XVIIe siècle, mais surtout, je crois, à partir de Chateaubriand inclus. Mais en fait, bien sûr, un complément, il finit toujours par en venir un. On ne reste pas sans écrire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? J'écris palude. Palude étant évidemment, ça serait très bien d'analyser ce texte qui est une manière très passionnant, mais Gide, enfin l'un des Gides les plus passionnants de toute l'œuvre, comme précisément palude étant une sorte de degré zéro de l'objet. C'est-à-dire, il n'ose pas dire qu'il écrit sans objet, il n'a pas de sens, surtout dans les conversations, puisque ce sont des conversations qui sont rapportées. Alors, palude devient le nom tout à fait indifférencié d'un faux objet. J'écris palude, ça veut dire j'écris. Et c'est une très curieuse grammaire, parce que le complément reste suspendu, soit dans le futur, soit dans l'indistinction, soit dans l'impossibilité de distinguer, de nommer ce qu'on écrit. Alors, donc, nous n'allons pas exploiter l'idée que écrire est un verbe intransitif. Mais c'est tout de même, du côté de la grammaire et de la linguistique, qu'on va trouver une bonne image de l'écrire absolu. Et cette image de l'écrire absolu, on ne va pas la trouver en français, malheureusement, mais en indo-européen. C'est un problème qui a été traité par Benveniste dans les problèmes de linguistique générale, le premier tome, à partir de la page 160. Benveniste, dans un article, je crois tout de même, assez célèbre et, comme toujours, tout à fait exceptionnel par la qualité et l'excitation d'esprit que ça procure, s'occupe de ce qu'on appelle dans les grammaires les voix, V-O-X. Ou en termes savants, on ne dit pas les voix actives, passives, on dit les diathèses. La diathèse, c'est la position fondamentale du sujet. Thésis, ça veut dire poser, n'est-ce pas? Il se pose. Diathèse, c'est la position fondamentale du sujet dans le verbe à travers le procès du verbe. Voilà ce que c'est que la diathèse. La position du sujet dans le verbe à travers le procès indiqué par le verbe. Alors, nous connaissons, tout au moins quand j'étais moi-même lycéen et ensuite étudiant à la Sorbonne, là, nous connaissions et nous croyions naturel qu'il y a deux voies en quelque sorte fondamentales dans nos langues, à savoir l'actif et le passif. Or, en grec, et un petit peu en latin, mais disons en grec, vous savez qu'il y a une troisième voie qui a été appelée par les grammairiens grecs, mais des grammairiens tardifs, la voie moyenne, le moyen, mésotès, c'est-à-dire mésos qui est au milieu, hein, mésotès, au milieu entre quoi et quoi? Eh bien, entre energeia, c'est-à-dire l'actif, et pathos, le passif. Et c'est une très mauvaise dénomination parce que ça fait de la voix moyenne, de la diathèse moyenne, une sorte de compromis secondaire entre deux souches principales, l'actif et le passif, et ce n'est pas du tout la réalité. En effet, les comparatistes de l'indo-européen savent bien que le passif n'est qu'une modalité du moyen. La voix importante, c'est le moyen. Et la vraie opposition, c'est entre actif et moyen, et non pas entre actif et passif. En effet, en indo-européen, il y a deux diathèses fondamentales, l'actif et le moyen. Alors, pour approcher la distinction, ceux d'entre vous qui la connaissent, je m'excuse auprès d'eux, je vais évidemment rajouter, mais ça me paraît important, pour approcher la distinction, il faut, ça c'est très important, une idée qui m'éblouit, qui ne cesse de m'éblouir. À savoir que, c'est une idée qui n'est pas de moi, c'est bien pour ça qu'elle m'éblouit, elle est de Benveniste. à savoir que la caractéristique du verbe indo-européen, donc le verbe indo-européen, donc le verbe de toutes nos langues indo-européennes, n'est-ce pas, du slave au grec, au latin et donc au français, au portugais, etc., au espagnol, le verbe indo-européen a pour caractéristique de porter référence au sujet et non à l'objet. Le verbe indo-européen porte référence au sujet et non à l'objet. Ceci, il y a d'autres langues dans le monde qui n'ont pas cette caractéristique. Par exemple, les langues amérindiennes ou les langues caucasiennes ont en général des indices à l'intérieur même de la forme du verbe qui signale le terme du procès, là où s'applique le verbe. Donc, ils ont référence, le verbe a référence en lui-même à son objet et non pas à son sujet. Tandis que les verbes indo-européens portent référence du sujet. Et je dirais, évidemment, avec une ellipse peut-être un peu aventureuse, mais c'est en cela que l'idée m'éblouit. C'est que si nous, descendants des Indo-Européens, par rapport notamment aux grandes langues contrastantes, comme les langues asiatiques ou le chinois par exemple, si nous, Indo-Européens, nous sommes subjectifs, c'est-à-dire si toutes nos philosophies partent ou débattent du sujet, si nous revenons si souvent au sujet, c'est peut-être parce que cela est inscrit dans le fond de la langue et dans le fond de notre langue. C'est parce que nos verbes, par une sorte d'hérédité plus que millénaire, mettent toujours l'accent ou incluent dans leur structure même la pensée du sujet qui fait l'action ou qui l'assume. Donc, c'est par rapport à ce problème du sujet que la distinction entre actif et moyen va se dessiner. Actif et moyen, cela renvoie à deux positions différentes du sujet dans le procès, le processus du verbe. C'est la distinction qui déjà existe chez le grammairien indien Panini, donc toujours de l'indo-européen, la distinction entre faire quelque chose pour un autre, c'est-à-dire à la place d'un autre, et faire cette chose pour soi-même, à ma propre place. Alors j'insiste, je donne les exemples. Par exemple, en sanskrit, vous avez un verbe qui est yajati, Y-A-J-A-T-I, yajati, qui veut dire il sacrifie pour un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, il sacrifie pour un autre? Ça veut dire, par exemple, qu'il est prêtre et il fait le sacrifice au nom, je dirais, d'un client. Il lui a demandé, on lui a demandé au prêtre de faire le sacrifice pour quelqu'un. Il sacrifie à la place d'un autre, pour un autre. Et ceci, c'est évidemment l'actif. En face, vous avez yajate, qui veut dire il sacrifie pour lui-même, pas comme prêtre, pour lui-même, en tant que c'est lui qui offre le sacrifice. Et c'est évidemment le moyen. Donc, dans l'actif, le procès s'accomplit à partir du sujet, mais hors de lui. Tandis que dans le moyen, le procès s'accomplit à l'intérieur du sujet, et le sujet est le siège du procès. Et là, j'insiste, parce que ceux d'entre vous qui ont fait peut-être du grec au lycée se rappelleront, tout au moins je fais allusion à mes propres souvenirs, que j'ai appris pendant plusieurs années, sans absolument rien y comprendre, que l'uomai voulait dire je délie pour moi. Et pendant plusieurs années, je n'ai pas compris comment je pouvais délier pour moi. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Pas l'uo, je délie, Lui au mail, je délie pour moi. Toutes les anciennes grammaires traduisaient comme ça. Quand on apprenait les conjugaisons, alors lui au mail, verbe moyen, je délie pour moi, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, et aucun professeur ne me l'a expliqué, parce que Benveniste n'était pas encore venu. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire que délier mes lacets souliers pour moi? Bah, il est évident qu'il les délie pour moi, et je ne comprenais absolument pas la distinction entre lui haut et lui au mail. C'était absurde. Et c'était dangereux, donc, de traduire par « pour moi ». En réalité, d'un côté, dans l'actif, il y a l'indication que le sujet effectue, et dans le moyen, que le sujet effectue en s'affectant. Actif, le sujet effectue, un point c'est tout. Moyen, il effectue, mais en s'affectant lui-même. Par exemple, nomus, en grec, n'est-ce pas, nomus itenai, actif, poser des lois. Si je suis législateur, nomus itenai, poser des lois pour la cité, etc. Ah, pour moi, poser des lois. Mais nomus titestai, moyen, poser des lois en s'y incluant soi-même, c'est-à-dire se donner des lois à soi-même. De même, polemon poiein, actif, il produit la guerre, par exemple en donnant le signal. Tandis que polemon poieitai, moyen, il fait la guerre ou il prend part. Imaginez tout un commentaire philosophique ironique à la Voltaire, où on verrait bien que ceux qui produisent la guerre, polemon poiein, ne sont pas en général ceux qui la font en y prenant part, pas polemon poieitai. Alors, donc voilà bien, je crois, j'espère que c'est clair, la distinction entre actif et moyen. Alors, il faudra remarquer que, ainsi expliqué, on comprend très bien, ainsi expliqué grâce aux analyses de Benveniste, on comprend très bien que le moyen puisse avoir un complément d'objet. Hein. Si on prend le moyen pour une sorte de faux passif, de passif secondaire, on ne comprend pas comment il peut avoir un complément d'objet, parce que le passif n'a pas de complément d'objet. Mais si on le comprend comme je l'ai dit, eh bien, on comprend qu'un moyen puisse avoir un complément d'objet. Bon, c'est la guerre, il y a un complément d'objet, hein. Mais en réalité, ce complément d'objet est secondaire par rapport à l'affect, au fait que je m'affecte moi-même en écrivant. Je m'établis, je suis, si vous voulez, à la fois centre et acteur de l'action, je m'établis dans l'action, non pas vers l'extérieur, comme le prêtre, mais sur une position interne, où le sujet et l'action ne font qu'une seule et même boule. Donc, écrire quelque chose, ce fut le cas pendant des siècles, et c'était en général à la place de quelqu'un qu'on écrivait quelque chose, quelqu'un de générique ou de fictif, dont l'écrivain n'était en quelque sorte que le simple procureur. C'est-à-dire que je prenais le couteau, j'étais métaphoriquement un prêtre, n'est-ce pas ? Le couteau du sacrifice, où je prenais l'épée, où je prenais la plume, pour une cause extérieure à moi. J'étais l'agent d'une cause. Donc, écrire à ce moment-là était véritablement actif. J'écrivais pour une cause. J'écrivais à la place de quelqu'un pour instruire, pour convaincre, pour convertir, pour faire rire, pour faire un roman réaliste. Et quand on faisait un roman réaliste, on m'a posé la dernière fois très justement la question, puisque je parlais du désir d'écrire, on m'a objecté que par exemple quelqu'un comme Zola, tout de même, il écrivait pour le peuple, enfin il écrivait au service d'une cause et pas pour ce tel désir. Très compliqué d'en décider. Ce n'est pas contradictoire, n'est-ce pas, puisque on peut à la fois se donner plaisir et trouver un alibi à ce plaisir. C'est même le cas le plus fréquent. Alors, ce n'est pas contradictoire et ça n'exclut pas la sincérité des attitudes. Mais disons que Zola, il s'est fait en quelque sorte procureur d'une cause qui est celle de la justice, de la vérité, du travail, etc. Donc à ce moment-là, il a été vraiment dans l'actif, dans la voie active, et c'est pour ça dire qu'il n'était pas du tout dans l'écrire au sens absolu. Zola n'a très lu, c'est un très grand écrivain, c'est pas l'écrivain le plus lu dans les bibliothèques du monde entier, mais on peut pas dire que son rôle ait eu la moindre importance du point de vue d'une histoire du texte, ou d'une théorie de la littérature, ou d'une théorie de la modernité. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'écrire actif et non pas dans l'écrire moyen. Tandis qu'en face, il y a bien sûr écrire, qui est prendre le couteau, n'est-ce pas, de même que sacrifier au moyen. C'est en quelque sorte prendre le couteau des mains du prêtre pour faire moi-même le sacrifice et ne pas le lui laisser faire. Et bien de même, écrire au moyen, c'est prendre la plume des mains de l'écrivain procureur et faire moi-même le travail d'écriture. Le complément d'objet, c'est-à-dire le quoi, est possible, bien sûr, il est inévitable, mais il est toujours englobé, embrassé, non par le sujet écrivant en tant que caractère subjectif, mais en tant que écrire l'a fait. Enfin, écrire au moyen ne renvoie pas du tout à ce qu'on pourrait appeler une esthétique de la subjectivité impressionniste, n'est-ce pas ? Le sujet n'a pas du tout à s'exprimer dans l'écrire moyen. Simplement, ce que cela veut dire, c'est que quand il écrit, il s'affecte lui-même en écrivant. C'est l'écriture qui l'affecte. C'est l'écriture qui l'affecte. Et il est ainsi, effectivement, une subjectivité, mais qui est une subjectivité non pas de personne psychologique, mais une subjectivité d'écrivant. Ce n'est pas une subjectivité de caractère, c'est une subjectivité d'écrivant. Et le plan pratique qui correspond à cette subjectivité d'action affectée, c'est-à-dire d'écrire vers le moyen, c'est ce qu'on appelle maintenant, je crois, l'énonciation. C'est pour cela que se cherche actuellement une théorie de l'énonciation, et tout ce que je viens de dire devrait rentrer comme dossier, enfin comme partie du dossier de l'énonciation. Donc l'écrivain classique, si vous voulez, prêtait sa plume à une cause, à une fin extérieure, par exemple la religion, et il était donc dans une diathèse active. Tandis que Flaubert comme écrivain, par exemple, qui est le type même de l'écrire, de l'écrire au sens moyen, n'est plus extérieur à sa plume. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, comme s'il avait prévu que je ferais ce cours et que j'avais besoin de cette citation, il a dit « Je suis un homme plume. Je sens par elle, à cause d'elle, par rapport à elle, et beaucoup plus avec elle. » Voilà la définition pure, rigoureuse, de l'écrire moyen. Alors, bien entendu, écrire absolu devient donc une sorte d'essence, l'essence d'écrire, une essence à laquelle l'écrivain, en quelque sorte, se brûle et s'identifie dans une sorte de mystique de la pureté de l'écrire que ne vient corrompre aucune finalité. C'est à ce moment-là, évidemment, que naît ce qu'on pourrait appeler une mystique de l'écrire. Une mystique de l'écriture, et toujours Flaubert, il a 39 ans, c'est en 1860, et il dit « Les œuvres d'art qui me plaisent par-dessus toutes les autres, sont celles où l'art excède. J'aime dans la peinture avec un grand P, dans les vers, le vers. » Donc, la boucle est bouclée, c'est-à-dire l'écriture est hypostasie. Alors, écrire comme verbe moyen correspond donc à une époque historique qui est en gros, à mon sens, le romantisme, je n'entends pas ce mot au sens scolaire restreint, mais au sens large, c'est-à-dire la littérature qui va, disons, de Chateaubriand, ou en tout cas même du dernier Rousseau, à Proust inclus. Écrire comme moyen, comme verbe moyen, comme diathèse moyenne, évidemment, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est dépassable. Et actuellement, de temps en temps, on cherche à dépasser le verbe écrire, à le radicaliser. Et ce serait même une pertinence pour décrire les tentatives et les échecs aussi de la littérature contemporaine, de la littérature, disons, d'avant-garde. Mais ça n'est pas encore joué. Et je me servirai, si vous le permettez, maintenant, ou en tout cas si c'était là mon propos, de faire cette description d'une façon approfondie, je me servirai de cette pertinence de écrire verbe moyen pour décrire non pas les livres publiés, mais disons les textes qu'il m'arrive de recevoir, c'est-à-dire qu'on veut bien me communiquer comme manuscrit. Enfin, je crois que c'est au niveau des manuscrits que la littérature est intéressante, qu'elle est à la fois ennuyeuse, comme je l'ai dit l'autre jour, et qu'elle est intéressante. Mais ça, on reparlera de ça, c'est parce que, de même que la dernière fois, je me suis permis de dire que je jouais mieux une courante de Bach que Blandine Vernet. Il est évident que si j'ai dit ça, c'est d'une part, même donner le contexte du raisonnement. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai une idée constante de l'esthétique, qui serait des hiérarchies esthétiques, qui consisteraient à mettre au sommet de la hiérarchie esthétique l'amateur, et non pas le professionnel. Une esthétique, donc, qui prendrait au postulat de valeur, parce que l'esthétique, c'est un champ de valeur, l'excellence de l'amateur, c'est-à-dire du producteur, par rapport à la maîtrise du professionnel, c'est-à-dire celui qui nous donne des produits. Donc, je pense que les manuscrits que je reçois sont un très bon test pour essayer de saisir où va le texte un petit peu, qu'est-ce qui le travaille actuellement. Et la typologie qu'on pourrait proposer serait la suivante, pour ces textes donc, disons, très modernes, très en train de se faire. Premier groupe, ça serait les textes où écrire est un verbe moyen, au moyen, très fort. C'est-à-dire que dans ces textes, seul compte vraiment l'affectation du sujet par l'écrire. Bien sûr que, disons que les livres qu'on trouve dans les librairies, les romans qu'on trouve dans les librairies, les romans courants, ne font pas partie de la problématique que j'essaye d'esquisser. Mais à partir du moment où on essaye d'esquisser un travail d'avant-garde, on trouve deux radicalisations du verbe écrire. Donc la première, au sens très fort du moyen, c'est-à-dire où le sujet se considère comme totalement affecté par l'écrire. Et donc il s'agit à ce moment-là, je dirais, d'une diathèse qui est encore plus qu'interne, mais qui est une diathèse que j'appellerais intestine. C'est-à-dire que l'objet écrit devient alors absolument inclassable, irrepérable et pour ainsi dire innommable, pour le meilleur et pour le pire. C'est un texte. Précisément, c'est-à-dire une trace d'activité, un graffiti, en général hors des normes de la lisibilité, c'est-à-dire qu'il n'est ni narratif, ni argumentatif, ni même poétique, entre guillemets. C'est une sorte de n'importe quoi aux yeux du lecteur, et d'où l'attention du jour de la publiabilité et le fait que la plupart de ces textes ne trouvent pas d'éditeur. Une autre voie possible, une autre voie de radicalisation, ce serait de pousser logiquement l'écrire interne, moyen, jusqu'à la négation du sujet, qui serait dissous dialectiquement dans l'universel de l'écrire. Par conséquent, à ce moment-là, écrire, à la façon romantique, n'est plus la dernière butée, et cela s'abolit, c'est une activité qui s'abolit, comme s'abolit le sujet lui-même. Donc on ne s'arrête plus au livre, à l'œuvre comme rejeton, substitut de la lignée, on socialise à outrance l'écrit. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans une sorte de tentation des écritures anonymes et ou collectives. Par exemple, dans la pratique généralisée du writing, où actuellement écrire n'est plus un verbe moyen, n'est même plus un verbe moyen, mais un verbe, je dirais, passif. Cela s'écrit, selon certaines techniques. Cela est écrit, selon certaines techniques. Ce qu'on voit dans les journaux, donc qui a été produit selon une technique du writing, du rewriting, du writing, ça n'est ni actif ni moyen, c'est passif. Cela est écrit, cela s'écrit, c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis on voit aussi, dans des tentatives d'écriture anonyme ou collective, quand le nom d'auteur, ayant été sacrifié d'une façon très hegelienne à de timides figures de l'universel, on a des textes, donc, qui se veulent rigoureusement anonymes. Du texte anonyme, il y a des tentatives récurrentes qui reviennent. Il y a eu Silicette, la revue. À vrai dire, il n'y en a pas beaucoup, parce que le sujet résiste, n'est-ce pas ? Le sujet résiste et il veut tout de même dire son nom, le sujet. Et un sujet qui veut écrire et qui abandonne le plaisir de dire son nom, ça n'est tout de même pas très fréquent. Mais c'est peut-être une tendance. Qui sait ? En tout cas, il faut observer. Alors, ces formes n'ont pas en effet fait leur preuve, sauf le writing, parce que précisément, la lecture résiste. Alors, celui dont je raconte ici plus ou moins l'aventure face à l'écrit, c'est l'homme romantique, au sens large du terme, et celui-là, bien entendu, il se pose le problème d'une écriture qui soit à la fois lisible et absolue, d'une écriture romantique. Et maintenant, donc, je vais reprendre mon récit, qui est celui de écrire verbe moyen. J'écris en m'affectant dans le procès même d'écrire. Encore quelques instants, il fasse très chaud, avant la pause. Je voudrais ajouter que écrire comme absolu emporte un mouvement existentiel particulier. C'est ainsi que l'analyse personnellement, en tout cas, qui est de finir l'œuvre, la pulsion de finir l'œuvre, pour pouvoir en recommencer une autre. Autrement dit, il y a dans l'écrire absolu, je crois, un fantasme, qui est le fantasme de avoir fini l'œuvre. On travaille l'œuvre comme un forcené pour l'avoir fini. Mais dès que c'est fini, on en recommence une autre dans les mêmes conditions d'illusion. Vous savez que, je rappelle toujours que George Sand finissait un roman à 2h du matin et à 3h en commençait un autre. Eh bien, elle était vraiment dans l'écrire. Enfin, c'est pas une question de style d'écrire, elle était dans l'écrire parce qu'elle avait compris que c'était comme ça jusqu'à la mort. C'est ça que ça veut dire, écrire absolu. Du moment qu'on écrit pour soi et pas pour une cause, il n'y a aucun risque de... Quand on est militant, on peut toujours à un certain moment perdre ses illusions, et donc de ses dignités. Mais quand on écrit pour soi, quand on est dans le moyen, on ne perd jamais ses illusions. Et donc, écrire au sens absolu, ça veut dire écrire jusqu'à la mort. Écrire jusqu'à la mort. Alors, la tendance, en effet, est absolument inlassable. La tendance est inlassable, et les sexualités de tendance, puisque c'est là que j'ai pris l'image de la tendance, sont effectivement des sexualités non seulement inlassables, le type même en serait la drague, mais en plus infatigable jusqu'à la mort. Alors, le vœu de avoir fini se pose évidemment à chaque étape de l'œuvre, la collecte des matériaux. Si je commence à rassembler des matériaux, je n'ai de cesse que d'avoir fini cette phase de l'œuvre. Ensuite, la rédaction, la correction, la dactylo, la publication, je suis emporté par le désir d'avoir fini ces opérations. À chaque étape, il y a ardeur, impatience à la parcourir, puis quand c'est fait, une sorte de déception, bien sûr, de platitude finale de l'objet. Quoi, ça n'est que ça. En général, les premières relectures sont très pénibles. Quoi, ça n'est que ça. Passons vite à autre chose. On peut dire, ou en tout cas, je peux dire, qu'une fois que c'est commencé, personnellement, je n'écris que pour avoir fini. Une fois qu'une chose est commencée, je ne la fais que pour l'avoir finie. Et en forçant à peine, je dirais que la seule joie que me donne un livre, c'est de l'avoir fini. Bien fini, c'est-à-dire bien fini ne veut pas dire qu'on pense qu'il est bien. Ça veut dire qu'on a le sentiment intime, la conviction d'une finition à laquelle on ne peut rien ajouter. C'est-à-dire le reste, finalement. L'accueil que peut recevoir un livre, l'accueil, c'est une satisfaction d'image, ça n'est pas une satisfaction de faire. Et comme c'est une satisfaction d'image, je ne dis pas qu'elle est négligeable, loin de là, mais elle est douteuse, car l'image ne peut être exacte. Pour moi, la seule satisfaction vraie, si je m'interroge aussi honnêtement que possible, la seule satisfaction vraie qu'un écrit publié peut me donner, c'est lorsque, je parle sur le plan de l'image et non pas du fait, c'est lorsque, par quelques lettres de lecteurs inconnus, quelques-unes simplement, je peux me convaincre que cet écrit a répondu à une demande qui s'ignorait. Et là, alors, j'ai le sentiment merveilleux et rare, que le livre est vivant. C'est-à-dire que j'ai produit quelque chose qui est vivant, qui n'était pas mort en naissant. Alors, il est évidemment dans la logique du projet, comme on écrivait au temps de la phénoménologie, n'est-ce pas, projet, du jet en avant, du tremplin en tremplin, il est évidemment dans la logique du projet de fantasmer une fin finale, une fin définitive, c'est-à-dire fantasmer, je dis bien, n'est-ce pas, fantasmer une sorte de moment où l'on n'écrirait plus, où enfin on se reposerait moins d'écrire que de la perpétuelle remise en mouvement du désir. Par Rousseau, à la fin de sa vie, fantasmer, je reviendrai là-dessus, une noisiveté intégrale. Alors évidemment, on peut fantasmer le moment où, enfin, on ne sera plus happé dans la machine du désir et où on n'écrira plus. Et d'où le privilège fantasmatique de la dernière œuvre, de l'image de la dernière œuvre comme ultime testament. Là, encore une œuvre, oui, que je fasse encore une œuvre, ce sera la dernière où je dirai tout et puis ensuite je me tairai, etc. C'est le fantasme du testament, la réalité du testament toujours refait. Ce concept, ou plus modestement ce fantasme de l'avoir fini, permet peut-être une nouvelle typologie, encore une fois, de l'écrit, et qui plus est actuel. Encore un exemple personnel ou particulier, toujours à propos des manuscrits que je reçois, c'est le cas d'un garçon, qui se prénomme Jean, et qui m'a montré un manuscrit. Ce manuscrit ne relevait pas du tout de la première typologie que j'ai dit, c'est-à-dire c'était pas du tout une œuvre textuelle, c'est-à-dire illisible, et ça n'était pas non plus une œuvre anonyme. C'était un roman narratif assez classique, à l'écriture très raffinée. Et c'était un premier roman. Et alors, à ce moment-là, je l'ai interrogé, je dirais secrètement, comme toujours à partir de moi-même, et je lui ai demandé, en pensant à moi, bien sûr, chaque fois qu'on pose des questions, sauf si on est juge d'instruction. C'est pour ça qu'il vaut mieux penser à soi quand on pose des questions. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous avez une vue de votre vie à venir comme celle d'un écrivain? Est-ce que vous voyez votre vie à venir comme la vie d'un écrivain? Est-ce que vous imaginez de construire une œuvre à l'échelle de votre vie? Ou un œuvre, si vous voulez, au masculin, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez de dédier votre vie à l'élaboration d'une œuvre? Une série d'œuvres. Et il m'a répondu, non. Non, je ne l'imagine pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il m'a expliqué que ce qu'il avait voulu dans ce premier livre, dans ce livre, c'est ce qu'il avait voulu, c'était en quelque sorte enfermer un moment de sa vie dans une œuvre et un point, c'est tout. Autrement dit, lui, il revenait sans complexe, mais à un autre endroit de la spirale, à écrire quelque chose. Écrire un moment de ma vie, un point c'est tout, et ne pas regarder au-delà. Donc aucune ambition d'écrivain au sens romantique du terme, comme par exemple chez Mallarmé, hein, simplement, je veux simplement enfermer tel moment de ma vie que je raconte dans ce livre. Et un point c'est tout, je ne regarde pas au-delà. Comme je considère peut-être à tort que tout ce qui est jeune, c'est le cas de ce jeune romancier, comme je considère que tout ce qui est jeune est moderne, je me suis senti évidemment très démodé, dans la mesure où j'ai de l'écrire un sentiment absolu, qui ne se termine pas avec l'œuvre, mais qui la recommence, ou disons un sentiment viagé à la mesure de ma vie. Et l'écrire, du moins le mien, a quelque chose de protensif. Protensif. Pro-tensif. C'est-à-dire que écrire, pour moi, se constitue à partir de l'avenir, et cet avenir est sans contenu, il ne se remplit jamais, sa nature est en quelque sorte hémorragique, parce qu'il remet sans cesse le temps en marche, et l'objet qu'il véhicule. Par conséquent, dans l'écrire, dans ma vision affective de l'écrire, il y a l'illustration de ce mot de Montaigne, qui est cité par Chateaubriand, quand Montaigne dit que les hommes vont béants aux choses futures. Les hommes vont béants aux choses futures. Eh bien, quand j'écris, je vais toujours béant à la chose future. C'est-à-dire, je vais toujours béant à l'œuvre future. Et je vais m'arrêter là maintenant, mais on retrouvera ce thème, c'est-à-dire l'emprise de ce qu'on appelle le protensif, le tendu en avant, qui façonne et marque le travail d'une vie, hein, on va le retrouver dans la difficulté à ce moment-là qu'on peut éprouver, à considérer ce qu'on a déjà écrit, c'est-à-dire à se retourner et à regarder le passé, ce qu'on a écrit, autrement dit à gérer le passé, devient extrêmement difficile et contradictoire à partir du moment où on aime écrire que en béant à l'œuvre future. Bon, je reprends dans 5 ou 10 minutes. Donc sur le problème de l'avoir fini. Avoir fini, le fantasme de avoir fini. Et ce dernier mot, c'est de vous rappeler une fois de plus un cas limite, qui est celui de Proust. La recherche du temps perdu se présente, du point de vue de la vie de l'écrivain, comme une lutte contre la mort. Il s'agit de finir l'œuvre avant de mourir. Donc, elle a inexorablement la valeur d'une œuvre testamentaire. C'est un avoir fini qui est limité par la mort. C'est donc un protensif absolu. Hein, Proust, par tout un régime, par toute une assise de vie, tendu vers avoir fini l'œuvre. Mais en même temps, l'œuvre est finie, c'est-à-dire qu'il y a une boucle finie. Et alors se pose, à propos de cette œuvre, la question du sursis. C'est une question qui me hante un petit peu pour Proust. Je
veux dire qu'elle revient, elle ne me hante pas, mais enfin elle revient souvent.
Si Proust n'était pas mort,
l'œuvre n'était pas mort en 1922, l'œuvre étant alors terminée de justesse,
qu'est-ce qu'il aurait écrit
ensuite?
Qu'est-ce qu'il pouvait écrire?
Je crois qu'un sursis, ce qui a été défini comme un sursis, ne se remplit jamais bien. Le sursis, c'est toujours un temps en trop, et c'est donc un temps de l'ennui. C'est un thème très important dans l'œuvre de Michelet, puisque, vous le savez, Michelet a considéré pendant une grande partie de sa vie que la Révolution française accomplissait l'histoire, c'est-à-dire finissait l'histoire. Couronner l'histoire, incarner le juste, le bien, et par conséquent était comme une sorte d'incarnation du bien, terminer l'histoire. Or, il a été obligé de constater que l'histoire a continué après la Révolution française. Et cette continuation de l'histoire a été le 19e siècle, c'est-à-dire le siècle pendant lequel il a vécu. Et il a donc senti le 19e siècle comme un sursis de l'histoire, et ce sursis a été pour lui le temps de l'ennui. Il a eu une réflexion d'une extrême sévérité, d'une extrême amertume sur le 19e siècle, parce que pour lui c'était au fond le temps où l'histoire n'arrivait pas vraiment à mourir et s'ennuyer.
Donc, voilà ce temps du sursis. Alors, qu'est-ce que Proust pouvait faire après la recherche? Bien, on peut imaginer que s'il n'était pas mort, alors, en réalité, il n'aurait rien écrit de nouveau.
Je peux imaginer assez bien, c'est probable, qu'après la recherche, il ne pouvait rien écrire de nouveau et qu'il aurait pu seulement ajouter inlassablement à l'œuvre. Par ce système que j'ai appelé le marcottage, c'est-à-dire en faisant partir des sortes de racines nouvelles de ce qui était déjà dans l'œuvre et en prolongeant par des épisodes rajoutés, des paperoles, n'est-ce pas, encore des paperoles, voilà ce qu'il pouvait faire avec l'œuvre. Comme une sorte d'augmentation infinie, comme quand on augmente une mayonnaise qui a bien pris par un peu d'huile. Et vous savez que le dernier mot écrit par Proust et qu'on a retrouvé au moment de sa mort près de son lit sur un papier taché de véronal a été le mot, enfin qu'on peut à peine déchiffrer, mais qui est sûr, le mot de Forcheville, c'est-à-dire un personnage secondaire de la recherche, n'est-ce pas? Qui montre bien que, par exemple, il pouvait recréer à partir de Forcheville encore des prolongements à la recherche. Voilà pour l'avoir fini. Je vais maintenant entrer dans une sorte d'digression. Qui est une question. La question, ce serait ne pas écrire. Point d'interrogation. En effet, puisque écrire est pris ici comme désir et comme passion, c'est comme ça que vous commencez à en parler, il me paraît nécessaire de poser le principe d'une rupture ou d'une cessation de ce désir et de cette passion. Autrement dit, d'évoquer la possibilité d'un contre-écrire et d'un non-écrire. Autrement dit, d'une paragraphie, consisterait à dévier le désir d'écrire sur autre chose qu'écrire, une paragraphie, ou une agraphie, consisterait à exténuer la passion d'écrire, à la supprimer, à la fatiguer, à la liquider, à entrer dans la sagesse. Car, bien entendu, écrire n'est pas sage. Et ceci n'est pas, ce que je vais dire là, ou ce thème n'est pas, je crois, une clausule rhétorique, parce qu'il m'arrive, personnellement, mais rarement, mais alors chaque fois j'en éprouve une très grande peur, quand cela m'arrive, la peur de quelque chose à quoi, cependant, à la limite, je peux imaginer de m'acclimater, il m'arrive donc de sentir passer sur moi, je dirais, de façon un peu pompeuse, m'arrive de sentir passer sur moi l'aile du non-écrire. L'aile qui est à la fois l'aile noire du malheur et en même temps l'aile douce de la sagesse. Donc cette question, à vrai dire singulière, qu'on ne pose guère, la voici. Comment peut-on cesser d'écrire? Comment interrompre la pratique et le métier d'écrivain? Comment est-ce possible de cesser d'écrire? Alors, je vais évoquer deux cas. Premièrement, la déviation du désir, c'est-à-dire dévier le désir d'écrire vers un autre désir. Deuxièmement, la mise en cause même de ce désir en tant que désir, c'est-à-dire l'abandon pur et simple du désir d'écrire. Alors, la déviation du désir, premièrement, donc, c'est le problème du sabordage de la littérature. Dans la littérature française, il y a un sabordage spectaculaire de l'écrire, c'est Rimbaud. Je rappelle les dates, 1854-1891, le coup de revolver de Verlaine, 1873. Alors, vous rappelez, vous voyez bien le cas, comment il se présente avec Rimbaud, une rupture absolument spectaculaire. C'est-à-dire, d'un côté, des lectures, des lettres, des vers, des théories, la théorie du voyant, et puis tout d'un coup, rigoureusement, plus rien. La littérature tombe dans le néant, c'est l'assassinat radical, brusque et définitif de tout écrire. Alors, pourquoi? Je ne connais pas bien la littérature sur Rimbaud, elle est extrêmement abondante, vous le savez, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'explication là-dessus. Et à vrai dire, on sent bien que la notion même de mobile serait un peu vaine et légère. Pourquoi Rimbaud, tout d'un coup, a-t-il cessé d'écrire? C'est comme ça. Un point, c'est tout. Toute explication paraîtrait un peu inutile. Et Rimbaud, c'est une chose très difficile à imposer à tous les commentateurs, puisqu'il y a eu un mythe Rimbaud dont Étienne Blatt fait sa thèse, il a imposé à tous les commentateurs la matité absolue de sa décision, d'une opacité totale, qui ressemble à la décision de ne pas écrire et d'une telle matité de ne plus écrire et d'une telle matité chez Rimbaud, c'est-à-dire d'un tel silence, qu'elle me fait penser, pour moi, à l'attitude d'Abraham chez Kierkegaard, dans Crainte et tremblement, c'est-à-dire l'attitude même de la foi. Le silence d'Abraham, c'est un des plus beaux textes de Kierkegaard, commenté par Kierkegaard, eh bien, le silence de Rimbaud me fait penser au silence d'Abraham, acceptant de sacrifier son fils. Donc, le sabordage, l'engloutissement est complet. Lorsque Rimbaud revient à la maison familiale, enfin maternelle, à Roche, en 1879, il écrit à un ami, qui lui demande s'il pense toujours à la littérature, il écrit cette phrase absolument mate, inaffective, qui est l'état neutre du désir, je ne m'occupe plus de ça. Je ne m'occupe plus de ça. Alors, le sabordage entraîne évidemment la rupture du contact avec les amis de Charleville, qui représentaient le passé, la littérature. Et bien sûr, le naufrage absolu des livres. Un autre ami, il dit, acheter des bouquins et surtout de pareils, c'est-à-dire éditer chez Lemaire, pas l'éditeur de Verlaine, tous ses amis, acheter des bouquins et surtout de pareils C'est complètement idiot. Tu portes une boule sur tes épaules qui doit remplacer tous les livres. Ceux-ci, rangés sur des rayons, ne doivent servir qu'à dissimuler les léprosités des vieux murs. Donc ce sabordage est inexpliqué. La seule chose qui ait été discutée, vous le savez peut-être, c'est la date de ce sabordage. Il y a eu deux versions, ceci est de l'histoire littéraire au sens le plus technique du terme. Une version longtemps admise, qu'on trouve dans les livres de Jean-Marie Carré, qui date ainsi les choses, donc 1870-1871 des poésies, 1872 les illuminations, mai 1873 saison en enfer, novembre 1873 plus aucun intérêt littéraire. Alors à ce moment-là, le sabordage aurait lieu pendant l'été 1873, après la saison en enfer. Mais vous savez que l'érudition a combattu cette version, cette chronologie, et que après les travaux d'un spécialiste, Guillaume Delacoste, on en est venu à une nouvelle évaluation des dates dans la vie de Rimbaud, et on a cru pouvoir certifier que les illuminations ont été écrites après la saison en enfer et non pas avant. La dernière œuvre, c'est donc les illuminations. Ce qui donne 1873, la saison en enfer, 1874, les illuminations, et 1875, la fin de l'activité littéraire. Alors, c'est évidemment important, si on veut retrouver une logique créative, de décider si la saison suit ou non les illuminations. C'est pas le même Rimbaud. Si le Rimbaud littéraire finit sur la saison, c'est un Rimbaud, disons, plus religieux, que si c'est un Rimbaud qui finit sur les illuminations. C'est pas la même chose. Mais pour nous qui nous contentons de constater et de contempler avec stupéfaction le naufrage absolu d'un désir, il suffit de situer ce sabordage en gros entre 1873 et 75, c'est-à-dire très exactement autour des 20 ans de Rimbaud, quand Rimbaud avait 20 ans, et qu'il lui reste donc encore presque 20 ans à vivre. C'est pour ça que j'ai donné les dates. C'est vraiment le mot de Dante au milieu du chemin de notre vie. Au milieu du chemin de la vie de Rimbaud, il y a eu ce sabordage absolument spectaculaire. Alors, ce qui est notable, c'est que Rimbaud quitte un désir, celui d'écrire, mais qu'il lui en substitue un autre, tout aussi violent, radical et, pour ainsi dire, forcené, qui est le désir du voyage, le désir de voyager. Si vous lisez une biographie de Rimbaud, vous ne pouvez pas être stupéfait par le côté absolument fou de son désir de voyager. Déjà, dans son adolescence, il a fait d'incroyables voyages à pied. Il n'avait pas d'argent et il marchait, il sillonnait tout le nord de la France, à Paris, vers Paris, de Paris, à pied. Il marchait sans un sou. Aujourd'hui, peut-être qu'il aurait fait du stop, mais c'est même pas sûr, parce que peut-être qu'il voulait marcher seul. De toute manière, la phénoménologie des voyages est à discuter, à établir historiquement. C'est pas le même espace si on parcourt à pied, à bicyclette, en carriole ou en train. Et il est certain que, par exemple, je dirais l'esthétique du paysage, chez des gens comme Rousseau, qui marchait beaucoup, n'est pas la même que celle qu'on pourrait produire aujourd'hui. Donc, goût forcené du voyage, goût forcené aussi d'apprendre les langues, ce qui va avec le voyage. À tout instant, il se mettait à apprendre une langue, l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, le hollandais, l'hindoustani, etc. Et puis des voyages aussi hors de France, vous le savez, surtout depuis 1873, donc le moment où il a cessé d'écrire, en Angleterre, bon, d'abord avec Verlaine, mais ensuite une autre fois avec Germain Nouveau, en Allemagne, à Stuttgart, en Italie, à Milan, par la Suisse, des retours à Charleville. Vous savez qu'il a sillonné l'Europe, il a été à Java, il a déserté l'armée hollandaise dans la forêt, il a été en Autriche, il a travaillé à Chypre, il a surveillé des ouvriers de carrière, et tout cela pour finir autour de la mer Rouge, et tout cela de 75 à 81. Donc voyager a eu à ce moment-là, je dirais, tous les caractères d'une manie, comme je l'ai expliqué. Et alors, à ce désir du voyage, s'est finalement substitué une seconde libido qui est assez proche, qui est la libido, le désir d'explorer et de coloniser, qui est l'épisode abyssin, l'Abyssinie. À cette époque, 87-89, il a exploré et colonisé, explorer et coloniser étaient deux activités intimement liées. Et c'est exactement l'époque, 87-89, où mon propre grand-père, le père de ma mère, vous savez que ces rapprochements de date ont sur moi un effet hallucinatoire, et que je ne cesse jamais de m'étonner d'avoir un grand-père qui a exploré une partie de l'Afrique noire au moment où Rimbaud explorait l'Abyssinie. C'est-à-dire que ça n'est pas si loin malgré tout. Ça n'est pas si loin puisque c'est un grand-père que j'ai connu, il est mort en 1926, je l'ai donc connu. Et donc c'est cette époque, 87-89, où explorer et coloniser était une même et seule opération. Et Rimbaud a été conscient de l'importance de sa tentative d'exploration. Vous savez qu'il a fixé la grande voie de pénétration en Abyssinie, qui sera le tracé du premier chemin de fer éthiopien, et qu'il a vu, semble-t-il, tout de suite la portée géographique et économique de Djibouti. Donc, au poète et au voyageur qui est encore une figure romantique, il a substitué un autre rôle, qui est un rôle absolument mythiquement antithétique à celui de poète, qui est le rôle du colon, du géographe et du colon. Il n'écrit absolument aucun vers, car il appelle les vers des enfantillages absurdes et dégoûtants. Et on a de lui, en cette période, que deux écrits, un compte-rendu de deux. Étant donné ce qu'il est devenu, comment à un certain moment a-t-il pu écrire? Eh bien, donc il faut désapprendre le schéma évolutif, le privilégier tel ou tel moment de la vie d'un homme. Nous avons une habitude invétérée dans nos réflexes mentaux, c'est une habitude d'origine chrétienne, où quand nous considérons la vie de quelqu'un, c'est-à-dire, nous considérons cette vie sous forme d'un destin, et la notion de destin veut dire quoi? Ça veut dire qu'on privilégie en valeur la fin, la mort. Et toutes nos habitudes culturelles consistent à juger d'une vie d'après sa mort. D'après la mort. Et nous jugeons un homme d'après sa mort. Ça, c'est une idée chrétienne. C'est l'idée de la bonne fin, de la bonne mort. C'est Pascal disant, avec mépris du malheureux Montaigne, « Or, il ne pense qu'à mourir lâchement et mollement par tout son livre, par la même médiscrédité. Car c'est la mort qui donne la clé du destin d'une vie, c'est cela que nous pensons. » Mais ce n'est pas cela, peut-être que nous sommes obligés de penser, bon, avoir une autre vue du destin et ne pas privilégier forcément la fin d'une vie. La deuxième remarque, c'est que Rimbaud est moderne, fondateur de modernité, je crois par plutôt l'éblouissement et le jeté de sa rupture. Ce n'est même pas la radicalité, la pureté, la liberté de la rupture qui est moderne, c'est qu'elle laisse voir et donne à voir le sujet, c'est-à-dire le sujet du langage, comme un sujet complètement fendu, un sujet schisé, comme une voie de chemin de fer dont chaque rail file et suit tout droit devant lui, parallèlement à l'autre, comme si Rimbaud avait eu en lui deux conditionnements étanches, l'un à la poésie, peut-être par le lycée, l'autre au voyage, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport à la mer, et il a parlé ces deux langages discontinus. C'est-à-dire qu'entre le poète, le voyageur, le colon et le croyant final, dans la vision de Claudel, il n'y a pas eu de jointure. C'est un être, c'est en cela qu'il est moderne, un mot, c'est que c'est un être sans jointure. Et c'est cette schise qui agit précisément comme une tentation moderne. Machiavel a dit de Laurent de Médicis, il a fait un portrait de Laurent de Médicis, où il expliquait que Laurent de Médicis était à la fois grave et voluptueux. Et il disait très belle, d'une façon très belle, qu'il y avait en lui deux êtres divers joints d'inconcevables jointures. Voilà donc la première possibilité pour ne pas écrire, c'est de s'aborder. Le sabordage. La seconde, il va nous retenir plus longtemps, pas plus digressive. C'est ce que j'appelle la solution d'un mot un peu faible, mais je vais le développer, de l'oisiveté. En effet, face à cette paragraphie, donc dévient un désir sur un autre, c'est le cas de Rimbaud, il y a la possibilité d'une pure agraphie, cessation d'écrire qui est liée à une cessation volontaire du désir. C'est-à-dire, vous rappelez les mots, n'est-ce pas, en latin, négos vient de négocium, c'est-à-dire la négation de l'otium, la négation du loisir. C'est-à-dire qu'au travail, à l'activité, à l'agitation, s'oppose otium, le loisir, ou l'oisiveté, si vous voulez bien prendre ce terme comme une espèce de force adulte, et pas comme une image dégradée et désinvolte du travail, pas mais comme une philosophie pleine et d'ailleurs difficile, la philosophie de l'oisiveté. Alors l'idée de l'oisiveté totale comme système de vie, je dirais qu'elle peut frôler l'écrivain chaque fois qu'il ressent l'écriture, quoi qu'il arrive, comme un vouloir vivre porté à la violence cachée d'un vouloir saisi. Une manipulation du désir des autres, quelle que soit la pureté des intentions. Et chaque fois que l'on voit l'écriture, quelle que soit, je le répète, la dignité des intentions de l'écrivain, chaque fois qu'on ressent l'écriture comme une volonté de domination, comme un vouloir saisir, un vouloir dominer, comme une manipulation du désir des autres, alors vient périodiquement la tentation de suspendre toute œuvre, comme étant statutairement une entreprise, une offensive, une domination, et vient donc à ce moment-là le désir de ne plus parler, d'annuler toute ambition, toute libido sociale et d'éteindre toute écriture. Par ses soucis, par ses luttes, par ses scrupules, faire des livres peut apparaître comme un métier funeste, l'expression est de Rousseau, hein, auquel on imagine qu'on va renoncer. Alors reste bien entendu le problème de la subsistance, car il faut tout de même bien vivre, mais aujourd'hui je dirais qu'il est relativement rare qu'un écrivain, surtout un écrivain, disons, de recherche, vive de ses livres. Donc, en général, les écrivains sont
professeurs, ou bien ils ont des postes dans des maisons d'édition. Là, ça serait une recherche sociologique intéressante à faire, de savoir combien y a-t-il d'écrivains qui vivent de leurs livres, et surtout, quels sont-ils? Quel type de littérature font-ils? Donc, je crois que les écrivains de recherche ont en général un métier principal, et que donc le problème du ne plus écrire ne se pose pas pour eux en termes de subsistance. Alors, je vais parler maintenant donc de cette voie de l'oisiveté, je la considère donc comme possible, comme d'une voie initiatique qui va du simple loisir, d'une simple liberté de faire ce qu'on veut, à une philosophie profonde du bien et du mal, du pouvoir et du non-pouvoir. Alors, je vais marquer quelques étapes de cette voie initiatique de l'oisiveté, du non-écrit. Premièrement, première forme, si vous voulez, c'est la forme la mieux intégrée de l'oisiveté, c'est l'étude, la lecture en soi, sans profit transformable. C'est-à-dire, on décide de ne plus écrire, mais on garde l'activité de lecture et d'acquisition du savoir. C'est exprimé par cette belle phrase, ceci est exprimé par cette belle phrase de la peau de chagrin, Balzac, vous connaissez, vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Mais savoir laisse notre faible organisation dans un parfait état de calme. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un parfait état de calme. Voilà donc une possibilité d'oisiveté. Il s'agit bien d'une oisiveté philosophique, puisque savoir n'est un bien que pour autant qu'il s'oppose à vouloir et à pouvoir. Que c'est un bien qui s'inscrit comme une non-libido, puisque ça nous laisse dans un état de calme. Voilà la première forme de l'oisiveté, savoir. Deuxième forme, ce serait l'oisiveté pleine, remplie, occupée par de petites tâches, de petites occupations. Le type de cette oisiveté pleine, du non-écrire, ce serait le retraité bricoleur. Il y en a une description très appétissante dans Rousseau. Rousseau a fantasmé l'oisiveté comme un grand projet, une vie nouvelle, Vita Nova, j'en parlerai plus tard. Vous savez qu'en 1765, Rousseau a 52 ans, et il a le projet de s'installer sur une petite île du lac de Bienne, en Suisse, île Saint-Pierre. Et il écrit « L'âge des projets romanesques étant passé, et la fumée de la gloriole m'ayant plus étourdi que flatté, et de me rester pour dernière espérance que celle de vivre sans gêne dans un loisir éternel, sans écrire. » Alors il visite cette île Saint-Pierre, elle l'enchante et il décide d'y séjourner. « Je prenais en quelque sorte congé de mon siècle et de mes contemporains et je faisais mes adieux au monde, donc c'est le thème solennel de la conversion, en me confinant dans cette île pour le reste de mes jours, car telle était ma résolution, et c'était là que je comptais exécuter enfin le grand projet de cette vie boiseuse auquel j'avais consacré jusqu'alors le peu d'activité que le ciel m'avait débarqué. Alors, cette activité de bricoleur est pleine de menues activités, en effet, et Rousseau la décrit très bien. Je voulais ce non-écrire du bricoleur quand il dit « L'oisiveté que j'aime n'est pas celle d'un fainéant qui reste là les bras croisés dans une inaction totale. » Nous allons d'ailleurs voir à l'instant que cette inaction totale peut être cependant fantasmée d'une façon très supérieure à l'orientale.
Donc, l'oisiveté que j'aime n'est pas celle d'un fainéant qui reste là les bras croisés lors dans une inaction totale et ne pense pas plus qu'il n'agit. C'est à la fois celle d'un enfant qui est sans cesse en mouvement pour ne rien faire, et ça c'est très beau, et celle d'un radoteur qui bat la campagne tandis que ses bras sont au repos. J'aime à m'occuper à faire des riens, à commencer sans chose et n'en achever aucune, à aller et venir comme la tête me change, à changer à chaque instant de projet, à suivre une mouche dans toutes ses allures, à vouloir déraciner un rocher pour voir ce qui est dessous, à entreprendre avec ardeur un travail de 10 ans et à l'abandonner sans regret au bout de 10 minutes. À muser, enfin, toute la journée, sans ordre et sans suite, et à ne suivre en toute chose que le caprice du moment. C'est très beau parce que ce qui est nié, n'est-ce pas, ça n'est pas du tout le travail. Le travail reste une valeur sacro-sainte pour quelqu'un comme Rousseau. Ce qui est nié, c'est la contrainte. C'est la contrainte, c'est une oisiveté qui se définit non pas par l'absence de travail, mais par l'absence de contrainte. Et Rousseau veut l'oisiveté parce qu'elle est libre. Je dirais que c'est notre conception courante de l'oisiveté. Dans le monde actuel, l'oisiveté est fantasmée et désirée, non pas comme une inaction absolue, mais au contraire comme une liberté à l'égard des contraintes, et c'est la définition même du bricolage. Bricoler, c'est travailler sans contraintes, entre autres choses. Alors voilà, donc, deuxième conception, c'est l'oisiveté pleine, l'oisiveté bricoleuse, pleine de tâches. Troisième conception, un degré de plus dans l'évaporation des tâches et des occupations, ce sera l'activité. Une activité, mais comme pure forme, qui ne produit absolument rien. Parce qu'au fond, un bricolage, ça produit même des objets, dont d'ailleurs on ne sait pas quoi faire. Le problème du bricolage, c'est que faire des objets qu'on a produits. Mais ça produit des objets. Alors on peut imaginer une activité qui, elle, ne produira absolument rien, mais qui soit tout de même une activité. C'est le troisième état. Donc, une activité qui n'a aucune rentabilité, même intérieure. Vous avez certainement vu, dans certains pays d'Afrique du Nord, et en tout cas en Grèce aujourd'hui, vous avez vu des hommes, pas une attitude de femme, en tout cas pas pour le moment, semble-t-il, vous avez vu des hommes assis à ne rien faire pendant de très longs moments, de très longues heures, et cependant, manipulant inlassablement un faux chapelet de grosses boules. Ce chapelet s'appelle en grec un koboloi. Koboloi. I avec un tréma. C'est un mot singulier, koboloi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces chapelets de grosses boules que les hommes triturent et que la main de l'homme triture ce chapelet sans y penser, car il n'a aucune fonction religieuse. Ce n'est ni un instrument, ni un bibelot. C'est, si l'on peut dire, à mon avis, c'est une chose merveilleuse de subtilité, l'emblème actif du ne rien faire. Car, si l'on peut être, pourquoi ça? Parce que peut-être que si on n'a pas le koboloi, ne rien faire ne se voit pas. Ne rien faire ne se voit pas. Et donc, il y a ici une dialectique subtile de l'être et du néant. Pour que rien se voit, se sache, se sente, il lui faut un support d'être. Pour que rien existe, il faut de l'être à rien. Sinon, pas de paradigme, pas de sens. Dire que le néant n'est rien est une chose insoutenable pour la pensée. Le néant est néant. C'est ce que veut dire le koboloi. Alors évidemment, il y a un quatrième état, en montant de la hiérarchie, si je puis dire, car ce qu'il faut arriver à soutenir dans l'expérience totale et finale de l'oisiveté, c'est de fantasmer une certaine expérience, sinon du néant, le néant c'est trop métaphysique, c'est trop empathique, du moins une expérience du nul. Et on pourrait donner à cette expérience du nul, pour épigraphe, deux vers traduits, deux vers zen. Et ces deux vers m'ont toujours tellement frappé et plu que j'ai souvent eu envie de les donner pour titre à des œuvres que je n'ai jamais écrites. Et que, en plus, contrairement à mes habitudes, je les sais par cœur, ce qui n'empêche pas que je vais les lire, parce que le seul fait de dire que je les sais par cœur m'en ôterait la mémoire. Et ces vers sont les suivants. Assis paisiblement sans rien faire, le printemps vient et l'herbe croît elle-même. Ce sont deux vers zen. Assis paisiblement sans rien faire, le printemps vient et l'herbe croît elle-même. Je remarque en passant une chose qui m'enchante dans ces vers, tels qu'ils sont traduits en tout cas, c'est la pureté et la beauté et la signification de l'anachronite. L'anachronite, c'est une rupture de construction. Hein, c'est donc une faute de construction grammaticale, l'anachronite. Et bien ici, en effet, il y a une anachronite. Assis paisiblement sans rien faire, le printemps vient. C'est pas le printemps qui est assis. Hein. C'est moi. Et pourtant, le sujet de la phrase, c'est le printemps. Et cette anacolute est pleine de sens. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Il n'y a rien qu'un assis. Assis. C'est même pas un sujet, un assis. Assis. On ne sait pas qui. Et je veux dire que j'ai vécu cet état d'une façon assez frappante. Non, hélas, par moi-même. Car c'est bien là le problème. Sans doute que un problème pour quelqu'un, c'est précisément de ne pas pouvoir être assis paisiblement sans rien faire. Enfin, c'est ça le problème. Mais je l'ai tout de même vécu par procuration, je me rappelle très bien, en voyant un jour où je conduisais seul l'auto, très lentement, sur une route secondaire du Maroc. C'est une route secondaire par rapport à la route de Rabat à Casablanca, vers un endroit qui s'appelle Ben Slimane, donc tout à fait en dehors de la voie principale, n'est-ce pas, une petite route de campagne. Et j'ai vu, ça m'est resté vraiment dans la mémoire tout le temps, j'ai vu un enfant, simplement un enfant, c'était le printemps bien sûr, et j'ai vu un enfant assis sur un mur. Un point, c'est tout. Et c'était absolument l'incarnation absolue des deux vers zen. Car cet enfant était dans l'oisiveté absolue. Alors cette oisiveté absolue, elle peut prendre trois formes. Premièrement, bien sûr, la forme du non-agir oriental qu'on appelle le wu-wei, ou le wu-wei. Plus loin, Wei, W-E-I. C'est-à-dire le désir d'une vie qui, extérieurement, ne bouge pas. Je désire une vie où je ne bouge plus, où je ne lutte plus, où je ne tends plus vers aucun changement. Alors, pour dire ce Wu-Wei, il faudrait, évidemment, chez nous, en tout cas, des images discréditées, et des images peu gracieuses, dont la première, ou celle qui s'impose à moi, serait celle du ta. Désirer être comme un ta. Peut-être même, pour aller jusqu'au fond, jusqu'au bout de la disgrâce, être comme une bouse. En grec, le ta, ça se dit soros. Et ça a donné, d'ailleurs, le nom d'un syllogisme particulier qu'on appelle le sorite. Les sorites sont des syllogismes par accumulation. Alors on pourrait imaginer une philosophie du ta, une sorosophie, une sorophilie. Donc être un ta, voilà ce que je peux souhaiter parfois. Mais évidemment, être un ta sensible. Ou une larve sensible.
c'est-à-dire en un sens par un retournement des choses, un état où l'intériorité serait rendue à son absolu, à son affirmation nulle, hein, où je serais comme un tas pour retrouver le mode absolument pur de mon intériorité. Et c'est précisément ce qu'on retrouve dans le Wu-Wei, tel qu'il est décrit, quand on dit que c'est une sorte de passivité éloignée de tout désir de violence ou de rivalité. Et alors, bien sûr, impossible au premier chef d'écrire. On ne peut pas écrire sans rivalité, sans compétition. Mais au fond, une espèce d'activité spontanée et inépuisable. Au fond, être un tas pensant, non pas un roseau pensant, mais être, parce que le roseau c'est très esthétique, c'est très joli, mais un tas, accepter d'être un tas pensant, ça veut dire quoi? Un tas sensible. Le tas, pourquoi est-ce qu'il est sensible? Pourquoi est-ce qu'il peut être sensible? Parce qu'il offre une grande surface de contact avec l'atmosphère. Et donc, il est sensible aux variations barométriques. Et ça serait ça un peu, une espèce de fantasme qu'on peut avoir, être rendu à un état d'immobilité, de non-lutte, de non-agir, de non-vouloir saisir, de non-vouloir écrire, absolu. Et cependant, une extrême sensibilité aux moindres variations barométriques. On peut dire aussi, vous me donnez 5 minutes de plus pour finir, on peut dire aussi, deuxièmement, que, d'une façon plus occidentale, que l'oisiveté radicale et ontologique est ainsi fantasmée, contre l'écrire, c'est fantasme contre fantasme. Cette oisiveté, on pourrait dire que c'est la nature. Voici une citation de Heidegger. Il dit ceci, très belle citation, un peu lourde dans la traduction, mais qui est très belle. La loi cachée de la terre conserve celle-ci dans la modération qui se contente de la naissance et de la mort de toutes choses dans le cercle assigné du possible, auquel chacune se conforme et qu'aucune ne connaît. Le goulot, attention, il s'agit de l'arbre, le goulot ne dépasse jamais la ligne de son possible. Ça, c'est très bon. Le goulot, E-A-U, ne dépasse jamais la ligne de son possible. Le peuple des abeilles habite dans son possible. La volonté, c'est là que les choses arrivent, la volonté, c'est-à-dire le fantasme, la pulsion, le désir, le vouloir écrire, le vouloir saisir, la volonté seule, de tous côtés, s'installant dans la technique, secoue la terre et l'engage dans les grandes fatigues, dans l'usure et dans les variations de l'artificiel. Elle force la terre à sortir du cercle de son possible, tel qu'il s'est développé autour d'elle, et elle le pousse dans ce qui n'est plus le possible et qui est donc l'impossible. Je crois que c'est une très belle. Alors ça, c'est dans le dépassement de la métaphysique, un texte d'Heidegger dans les essais 27, dépassement de la métaphysique. Alors, je crois que c'est une très belle description du combat entre l'écrire, c'est-à-dire la volonté, les grandes fatigues, les usures, les variations, les caprices, les artifices, bref, l'impossible, d'une part, et d'autre part, ce que j'ai appelé l'oisiveté, c'est-à-dire la nature, le développement, le tas, la sensibilité immobile, elle est dans le cercle du possible. Un troisième exemple de Wu Wei, et je m'arrêterai ensuite. Donc,
utilise l'exemple « way », c'est d'abord le tas, ensuite la nature, et troisièmement, je me réfère ici à Nietzsche. Nietzsche se raconte dans ce dernier livre qui est « Ecce Homo », et en se racontant, il assimile le ressentiment, n'est-ce pas, qui est une grande notion nietzschéenne, qui est la force réactive du type prêtre, il assimile le ressentiment à une agitation, à une entrave, à une maladie. Et par conséquent, il dit être libre de tout ressentiment, c'est ça qu'il faut, hein, être libre de tout ressentiment. Et il dit être malade, c'est déjà une sorte de ressentiment. Alors, il y a ce thème de la maladie, qui est capital chez Nietzsche, dont Klosowski a admirablement parlé. Être malade, c'est déjà une sorte de ressentiment. Contre cela, le malade n'a qu'un grand remède, j'ai nommé le fatalisme russe. Ce fatalisme sans révolte, qui fait qu'un soldat russe, dans la campagne militaire, lui semble trop dur, finit par se coucher dans la neige. Ne plus rien avaler, au propre et au figuré, ne plus réagir du tout, une sorte de volonté d'hibernation. Rien ne vous consume plus vite que les émotions du ressentiment, c'est ce qu'a bien compris Bouddha, ce profond physiologiste. Donc, passivité supérieure, transcendante, qui reste en accord avec la nature, l'image nietzschéenne du fatalisme russe, disons qui est plus Tao que bouddhique, hein. Et ça implique évidemment une morale difficile de non-réponse au mal, car c'est ça le problème du Ta, c'est la réponse au mal. Et c'est ce problème de la non-réponse, il faut assumer de ne pas répondre au mal, si on veut être immobile. Et c'est là que pointe un énorme problème éthique. Et c'est ce problème éthique, vous le savez, qui a alimenté et architecturé l'œuvre de Tolstoï. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le monde actuel ne me semble pas très bien préparé à une philosophie plus tard. Et que nous sommes plutôt, semble-t-il, en tout cas de plus en plus, dans l'ère générale du ressentiment. C'est-à-dire l'ère, pour reprendre la typologie nietzschéenne, l'ère des prêtres, papes, même des ayatollahs, sont donc les types même de ressentiments. Ce sont des antitapes. Bien, le samedi prochain, ce sera le dernier cours du trimestre de l'année. Ensuite, ce sont les vacances et nous reprendrons le 5 janvier.